France Culture.
Les bonnes choses ont une fin, c'est la conclusion à laquelle sont parvenus de très nombreux économistes et parmi eux les plus grands. Au départ, il y a cette réflexion, et si les successions de crises, puis de phases de croissance, puis de ralentissement économique étaient autre chose que le fruit du pur hasard, succède ensuite cet espoir fou, et s'il existait une sorte de partition qui reviendrait suffisamment régulièrement pour former un schéma capable de prédire l'avenir économique, loin d'être une science occulte, cette boule de cristal théorique se fonde sur la notion de cycle qui a occupé les économistes depuis le 19e siècle. En analysant l'histoire des sociétés industrialisées et à grand renfort d'indicateurs et de données chiffrées, les théories des cycles s'affinent et se diversifient, mais ne sortent pas toujours indemnes des moments de crise, c'est-à-dire quand la réalité vient rattraper la théorie. Alors pourquoi a-t-on cherché à modéliser le comportement de l'histoire économique malgré son imprévisibilité fondamentale et de quels outils dispose-t-on pour lire dans les lignes et les colonnes de chiffres, le concept même de cycle relève-t-il de la chimère ou faut-il y voir au contraire la seule façon de prendre des décisions de politiques économiques efficaces et éclairées? Entendez-vous l'écho marche aujourd'hui dans les pas de Kondratiev, Schumpeter, Keynes, Hayek et tant d'autres dans cette émission programmée et préparée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par François Saint-Jour. Et deux invités sont avec nous pour marcher dans ces fameux pas aujourd'hui. Thierry Aymard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Lorraine, chercheur au laboratoire BETA pour Bureau d'économie théorique et appliquée. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Également avec nous, Laurent Ferrara, vous êtes professeur d'économie à Schema Business School, président du comité de datation des cycles de l'AFCE, l'Association française de sciences économiques, voilà qui va nous intéresser pour l'heure qui vient. Et votre ouvrage, Les cycles économiques, une analyse empirique, coécrit avec Valérie Mignon, apparu aux éditions Economica en octobre 2024. Soyez le bienvenu dans cette émission. Thierry Aymard, on peut faire peut-être un premier constat. On l'a dit, de très nombreux penseurs, théoriciens, économistes se sont penchés sur cette fameuse question des cycles, leur durée, on va dire leur composante et puis leur existence même pour certains. Pourquoi cette question obsède à ce point à travers les décennies ?
Vous l'avez fort bien dit dans votre introduction, en fait le métier de l'économiste c'est quand même la prévision avant l'explication. Et donc à partir du moment où on a commencé à repérer des formes de récurrence, la succession de phases d'expansion qui se terminent tôt ou tard, et puis ensuite des phases de récession, de dépression, l'idée c'était effectivement de savoir si on était capable de comprendre ce qui se passait derrière cette succession de phases, de distinguer les facteurs causaux, avec évidemment toujours l'espérance, quelquefois le fantasme, de pouvoir d'abord prédire l'ensemble des événements qui conditionnent bien sûr l'ensemble de la santé des économies et éventuellement de contrôler ce cycle, c'est-à-dire d'empêcher un retournement et d'arriver évidemment à travers toute une série d'indicateurs qui ont été progressivement discutés, découverts de manière plus ou moins controversée, arriver effectivement à lire l'avenir. Et donc, évidemment, c'est le métier de l'économiste d'arriver, évidemment, à des modèles de prévision suffisamment significatifs, suffisamment efficaces pour contrôler la conjoncture. Et si on n'arrive pas à la contrôler, pour quand même réussir, évidemment, à savoir ce qui va se passer, quand ça va se passer, pour s'y préparer au mieux.
Tirer des leçons de l'histoire pour tenter d'anticiper. On comprend que c'est là l'essence de ces théories. Alors, Laurent Ferrara, on l'a dit, il y a beaucoup de monde qui s'est intéressé à cette question. Chacun y est allé, on va dire, de sa théorie. Et on peut quand même essayer de déterminer peut-être un dénominateur commun aussi à tous ces penseurs, tous ces économistes qui ont tenté de comprendre ce qui faisait un cycle. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques au cycle qui permettent de parler véritablement de cycle et non pas de simples fluctuations, de simples changements finalement dans le paysage économique?
Oui, merci de votre question. Donc l'idée, c'est que l'économie, en fait, est basée sur des fluctuations. Donc tout bouge tout le temps, sans arrêt. Il y a beaucoup d'aléatoires dans les mouvements de l'économie d'un pays. Donc évidemment, ce qu'on cherche à avoir, c'est un peu à identifier des régularités auxquelles on pourrait s'accrocher quelque part et essayer, avec l'espoir de les modéliser, et puis éventuellement d'essayer de les anticiper. Et donc les cycles économiques font partie de ces régularités que l'on peut voir au sein des fluctuations au sens le plus large dans les différentes économies. Donc on a différentes définitions des cycles, mais bon, peut-être qu'on y viendra par la suite, mais c'est vrai que on s'est attaché à fournir quelques définitions assez précises des cycles, et puis à partir de ces définitions, d'essayer de les mesurer, notamment les mesurer en temps réel, c'est-à-dire savoir où on est aujourd'hui. Et puis l'étape ultime, c'est d'essayer de les anticiper, c'est-à-dire savoir où on va demain, avec un horizon quelquefois assez court. Hein. Les conjoncturistes, qui sont les économistes que l'on voit par exemple dans les banques privées ou dans les institutions internationales ou dans les banques centrales, s'attachent à anticiper un horizon d'environ 3 ans. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a en tête. Quand on regarde les prévisions du FMI, par exemple, les perspectives de l'économie mondiale, les prévisions sont 3 ans. L'horizon de la Banque centrale, de la Fed ou de la BCE, c'est aussi environ 3 ans. Donc voilà, on s'attache à essayer de voir si au cours de ces 3 ans, on peut identifier les phases du cycle à venir.
3 ans, c'est parce que c'est l'horizon qui permet de faire des hypothèses les plus crédibles, les plus probables ?
Oui, alors au-delà de 3 ans, après, on passe dans ou alors des cycles longs, voire de la tendance. Voilà. Donc il y a cette question de décomposition entre la tendance de long terme et le cycle de moyen court terme. Donc qu'est-ce que c'est moyen court terme ? On peut dire allez 5 ans, on va dire moins de 5 ans. On peut dire dans ces eaux-là, on est dans les zones cycliques. Donc les déterminants sont pas forcément les mêmes. Peut-être qu'on y viendra par la suite, mais les déterminants de la croissance de long terme et des cycles sont pas exactement les mêmes. Donc quand on s'attache à faire des prévisions, on se dit voilà, si j'arrive à donner les horizons d'ici 3 ans, c'est déjà pas mal. Et puis aussi, c'est l'horizon sur lequel les politiques économiques peuvent avoir un effet. On parle souvent des politiques contracycliques, donc que ce soit la politique budgétaire, le gouvernement, le ministre des Finances, ou la politique monétaire, la Banque centrale, qui en montant ou en baissant ses taux d'intérêt, peut espérer avoir un effet sur ce cycle.
Et là, Laurent Ferrara, on aborde un point crucial et sur lequel on aura largement l'occasion de revenir, mais c'est que finalement, le cycle est aussi un outil en tant que tel pour justement ces politiques publiques, ces politiques économiques. Thierry Aymar, on voit qu'il y a beaucoup de différences de temporalité, 3 ans, 5 ans, il y a ces échéances-là. Il y a également l'idée de regarder l'histoire très longue pour pouvoir en tirer des leçons et ensuite anticiper, on l'a dit. Est-ce que, je reviens sur cette question, est-ce qu'il y a tout de même des critères qui font qu'on peut parler véritablement d'un cycle plus que d'une simple fluctuation de très court terme qui ne rentrerait pas dans ce modèle-là ?
Il y a toujours ce qu'on appelle des faits stylisés en économie, sur lesquels il y a à peu près un consensus, les évolutions de la production, des prix, de l'emploi. Donc on peut effectivement s'accorder sur des variables plus significatives que d'autres, soit ces variables sont à la hausse, soit elles sont à la baisse, et donc on va évidemment, je dirais, s'accorder là-dessus. Mais pour répondre à votre question tout en rebondissant sur les remarques de Laurent, c'est assez significatif de montrer que l'ambition s'est quand même un peu réduite par rapport à ce que l'histoire pouvait montrer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments de la théorie du cycle. Laurent a bien précisé qu'on pouvait envisager des cycles de différentes natures et de différentes durées. Il y a des cycles mineurs, donc historiquement, donc ça nous amène effectivement à un auteur comme Kitchin qui voyait effectivement des choses liées plutôt au mouvement des stocks. Il y a des cycles, alors c'est des cycles à peu près de 2 à 4 ans, hein, des phases d'expansion de 2 ans et puis des phases de récession, de dépression de 2 ans. Vous avez ensuite d'autres types de cycles un peu plus longs. Les cycles courts ou les cycles moyens, bon, tout dépend évidemment des dénominations, qu'on relie souvent au cycle des affaires aussi. Ça nous amène à des auteurs comme Jules Clark, des auteurs comme Jevons, etc. Et puis, au XXe siècle, on a essayé d'avoir des visions encore un peu plus longues, avec des ambitions beaucoup plus fortes. Et on a donc des théories Kondratiev, des théories de type Schumpeter, qui est une forme de lecture aussi de ce qu'a pu raconter Kondratiev. Et ça, évidemment, c'était l'ambition de lire de manière extrêmement longue les traînes qu'on pouvait avoir sur les commis de marché. Évidemment, il y a eu tellement de débats, tellement de controverses, tellement de déceptions
aussi, oui.
À la fois sur la notion de périodicité, de durée des phases d'expansion et de dépression, que finalement, tous ces débats très intéressants intellectuellement ont quelquefois accouché d'une souris, dans le sens où on n'a pas vraiment beaucoup réussi à prédire quoi que ce soit. Et lorsqu'on s'est avancé lors des Trente Glorieuses pour dire que finalement, bah peut-être la théorie du cycle était bouclée parce qu'on avait l'impression d'avoir des modèles extrêmement élaborés qui permettaient effectivement de contrôler la conjoncture, ce qu'on croyait, on s'est aperçu évidemment qu'ils étaient 70, que quelque chose était en train de basculer et que les fameuses prévisions, voilà. Donc souvent, d'ailleurs, la théorie du cycle, elle est assez valorisée lorsqu'on est dans le retournement. Quand on est dans des phases de croissance, finalement, tout va bien.
On se pose pas tellement la question.
On éprouve exactement le besoin de se rassurer et de se dire tout est terminé, les difficultés sont derrière nous. Et quand on rebascule, alors là, ce sont des périodes où on revisite le cycle pour essayer de comprendre comment on peut éviter de basculer dans les phases de dépression.
Thierry Aymard, c'est parfait, vous venez de nous faire la feuille de route de cette émission, parce qu'on va revenir effectivement sur toutes ces théories qui se sont, on va dire, complétées les unes les autres, voire entrechoquées, vous le disiez, mais vous soulevez un point intéressant, et puis il faut le dire tout de suite, Laurent Ferrara, peut-être que cette ambition de vouloir anticiper, comme on l'a dit, et puis de modéliser aussi, grâce certes à la donnée et au regard sur l'histoire, mais une économie n'est jamais à l'abri d'événements indépendants de la volonté de quiconque. On peut évidemment mentionner les chocs pétroliers des années 70, et puis beaucoup plus récemment une pandémie mondiale, au hasard. À quoi bon créer des modèles si, in fine, ce sont des événements totalement exogènes qui viennent faire basculer l'économie ?
Non, enfin, la déception, elle vient du fait que, la déception qu'évoquait Thierry, vient du fait que, en fait, c'est difficile de réconcilier la théorie et la pratique, l'empirisme. Okay. Et donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. On sait que les cycles de Juglar, on a appris ça à l'université, ou en classe préparatoire, ou dans les écoles. On sait à peu près ce que c'est. Mais quand on s'attache aux données, ben en fait, on a du mal à réconcilier les cycles théoriques, et c'est ce qu'on voit dans les données. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a eu tout un champ qui s'est développé, notamment aux États-Unis, au NBER, qui est le National Bureau of Economic Research, juste après la Grande Dépression de 1929. Ils se sont dit, il faut qu'on mette en place des baromètres de suivi des variables macroéconomiques, qu'on les suive au quotidien et qu'on arrive à identifier ce cycle. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est que le cycle, il n'est pas observable dans la nature. Je ne peux pas sortir et me dire, tiens, le cycle, ça monte, ça baisse. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, il faut définir des critères, vous aviez évoqué le mot précédemment, quels sont les critères pour identifier les cycles. Alors, quand on s'attache au cycle des affaires, donc le cycle des affaires, c'est celui qui enchaîne les phases de récession et d'expansion, récession, expansion, etc. Ce cycle-là, on dit que pour identifier les récessions, il nous faut au moins trois critères. On appelle ça les critères DAD. Il faut qu'on ait la durée, l'amplitude et la diffusion. Alors, la durée, c'est quoi ? Il faut que le mouvement soit assez long, il ne faut pas juste un mouvement aléatoire, un mois ou un trimestre. Ça, c'est la durée. L'amplitude, il faut que le mouvement soit assez profond pour qu'on puisse l'identifier. Hein, si c'est juste tout proche de zéro, bon, mais c'est pas sûr qu'on bascule en récession. Il faut qu'on ait un mouvement assez marqué. Et le troisième critère, qui est le troisième D, c'est la diffusion. C'est-à-dire qu'il faut que le mouvement soit visible sur l'ensemble des variables macroéconomiques que l'on considère comme être les bonnes variables pour identifier le cycle. Alors là, on a tout un paquet de variables macro disponibles, que ce soit les comptes nationaux avec le PIB, l'investissement des entreprises, la conso des ménages. Quelquefois, on peut regarder aussi les exportations, les importations. On a des variables d'emploi sur le marché de l'emploi, que ce soit l'emploi salarié, le taux de chômage, etc. On a d'autres variables qui existent, on peut regarder des enquêtes, etc. etc. Donc voilà, je pense que si on veut parler du cycle, d'abord, on doit le définir. Et ces critères-là nous donnent quand même une assez bonne définition, fidèle à ce qu'avait proposé le NBER initialement.
Pharaon rêve, Pharaon est debout sur le Nil, et il voit monter du fleuve cette vache grasse, bien en chair, après elle, cette autre vache décharnée. Et chaque fois, il est significatif non d'une fin qui marquerait une fin brutale, une fin absolue, mais au contraire d'une fin qui est le commencement d'une nouvelle période.
Alors en fait, on peut dire en deux mots qu'ici, il s'agit évidemment d'un rêve économique. Est-ce que le produit national brut va augmenter ou pas? Est-ce que nous entrons dans les années de vaches maigres ou de vaches grasses, devant seulement être remplacées probablement par les dollars ou par le pétrole, n'est-ce pas? Il est certain que l'obsession de l'économie est tout naturellement le fait de celui qui dirige un État.
Voilà, un rêve économique, c'est une archive de 1980. On l'a bien compris, il est très compliqué de maîtriser les chocs exogènes, ce qu'on ne peut pas prévoir, ce qui ne dépend de la volonté de personne. Mais cette théorie, enfin, ces théories du cycle peuvent au moins tenter de contrôler les causes endogènes. Laurent Ferrara, est-ce que c'est cela, finalement, qui fait véritablement de ces théories, de cette vision par cycle, tout l'intérêt, finalement, de la théorie? Est-ce que c'est cela qui attire aussi l'attention des pouvoirs publics? Vous avez parlé de ces institutions finalement qui sont chargées de compiler les données, d'observer à la plus large échelle possible un ensemble de facteurs. Est-ce que si ces institutions-là sont en place, c'est aussi parce que les pouvoirs publics y voient une forme d'intérêt?
Oui, vous avez raison. En fait, il faut distinguer les causes des cycles. J'aime bien voir ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire d'un côté des aspects endogènes, c'est-à-dire une économie en train de croître, elle est en train de créer des déséquilibres, elle croît, puis à un certain point, eh bien, la croissance n'est plus soutenable, on a fait des prévisions trop optimistes, on a surinvesti, on a eu un accès au crédit trop élevé, et à ce moment-là, on ralentit, on commence à basculer dans la phase récessionnaire du cycle. Donc ça, c'est une histoire un peu endogène qu'on pourrait imaginer, qui passe souvent par l'endettement, en fait. Que ce soit un surinvestissement, comme on a connu en France en 92-93, par exemple, des entreprises, ou alors un surinvestissement des ménages via le cycle immobilier. C'est ce qu'on a connu en 2007, et la crise financière de 2007 vient de là, et la récession qui a suivi 2008-2009 aux États-Unis vient aussi de là. Donc ça, c'est des histoires un peu endogènes, et les modèles, là, sont assez utiles parce que on a quelques explications.
Ça permet de repérer les signaux faibles.
Exactement. De notre côté, si on regarde l'histoire aussi, en particulier de l'économie française, on a quand même pas mal de récessions qui sont dues à des chocs exogènes. C'est-à-dire, on se prend un choc qui vient de l'extérieur, et puis là, on doit réagir. Donc là, les politiques antérieures ne sont pas forcément adaptées ou inadaptées. Par contre, ce qui est important, c'est de réagir ex post, une fois que l'événement est passé. Exemple, le parfait exemple, c'est la crise Covid. La crise Covid, là, on peut quand même, je crois que tout le monde, pour une fois, les économistes peuvent sûrement être d'accord sur un point, c'est que c'est quand même un choc exogène qui est venu nous frapper. Alors exogène parce qu'à la fois il vient d'un pays étranger qui vient de Chine, et puis une pandémie, c'est un choc auquel honnêtement on ne pensait pas. Fin 2019,
on n'avait d'aucun mécanisme.
Absolument, on avait toute une batterie des risques envisageables, que ce soit une crise en Chine ou aux États-Unis ou que ce soit, mais prévoir une pandémie, là, honnêtement, c'est impossible.
Donc là, c'est de la boule de cristal, peut-être.
Voilà, c'est typiquement le choc exogène. Et là, les politiques macro se doivent de réagir ex post, après le choc. Voilà. Donc là, c'est aussi important pour les gens qui prennent les décisions de politique économique, de savoir où on est dans le cycle. Alors, avec le Covid, c'est simple, puisque là, on est un choc clairement identifié, mais quelquefois c'est un peu plus compliqué. Quand on a des crises financières, ça se propage lentement. Quand on a des hausses de prix de l'énergie, par exemple, qu'on a connu dans les années 70 ou comme on a connu plus récemment, là c'est un peu plus difficile à identifier en temps réel.
Thierry Aymard, oui. Ce qu'on comprend bien, c'est l'idée qu'il y a toute une série d'indicateurs qu'il faut regarder en fonction des pays pour analyser sa santé économique, mais ça nous fait dire quand même quelque chose de fondamental en ce qui concerne la notion de cycle, c'est qu'elle est extrêmement relative. Dès lors qu'on veut théoriser, on est obligé de prendre en compte le contexte spécifique à chaque pays. Comment on résout cette contradiction qui est de modéliser tout en ayant cette relativité extrême?
Oui, façon dès l'origine, hein, on a commencé à étudier les crises au 19e siècle, à la fois en Angleterre, en France et aux États-Unis. Et puis ensuite, on a vu qu'on a constaté que les cycles, les crises, les successions de phases d'expansion et de récession n'étaient pas les mêmes en France, en Angleterre. On n'avait pas forcément les mêmes crises. Au 20e siècle, on a observé une plus grande convergence avec plutôt l'idée que ce qui se passait aux États-Unis avait des conséquences sur l'Europe. Et c'est vrai que si on fait un bond dans l'histoire pour voir un peu les enjeux contemporains, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est différent. C'est-à-dire, il est tripolaire. Et donc, s'il y a effectivement une force de frappe plus importante aujourd'hui en termes de dynamisme et de capacité de création de valeur, c'est peut-être du côté asiatique. Ce qui, évidemment, modifie un petit peu les visions traditionnelles qu'on peut avoir. Et évidemment, ce 20e siècle aujourd'hui, c'est aussi peut-être, je ne sais pas si Laurent sera d'accord avec moi, mais peut-être aussi une réflexion nouvelle qu'on doit mener sur les indicateurs qui sont pertinents, parce qu'on voit émerger des problèmes nouveaux. Alors, on a parlé évidemment de la crise sanitaire qui n'a pas de précédent historique véritablement, en tout cas envisagé sous l'angle économique. On peut parler bien évidemment des facteurs environnementaux, avec évidemment la construction de nouveaux indices. On sait très bien que l'environnement, par définition, ce sont des chocs qui affectent les différentes économies à différents degrés. Comment les intégrer et les pondérer avec des indicateurs traditionnels? Comment finalement aussi réfléchir de manière un peu novatrice sur à la fois des indicateurs objectifs sur lesquels les économistes peuvent à peu près s'entendre, je dis bien à peu près, parce qu'il y a comme des controverses sur finalement ce qui va nous faire basculer d'un côté, quel est le niveau d'amplitude qui nous amène d'un côté ou de l'autre. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la perception par le public aussi de ces indicateurs, parce que nous, économistes, on a peut-être la vocation de dire objectivement ce qui se passe, et donc de dire que ça va aller mieux ou que ça va aller moins bien, mais la perception, effectivement, des individus qui constituent le corps économique n'est pas la même. Et on sait très bien que ça peut, évidemment, avoir des conséquences sur le cycle politique, et les décisions de politique publique qui peuvent évidemment être endogénéisées à partir des réactions du public, ce qui complexifie encore un peu plus le travail de prévision, qui aujourd'hui quand même, là aussi on peut avoir un débat, mais c'est vrai que notre horizon économique est marqué terriblement par l'incertitude. Personne n'est capable aujourd'hui de savoir quelles sont les conséquences de l'IA, de la modification de l'ensemble de la structure industrielle, financière, suite à ce choc technologique dont on soupçonne qu'il est d'une nature un peu différente des révolutions industrielles qui ont eu par le passé. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est même compliqué, ex post, de réagir de manière efficace à des événements dont la nature nous conduit à penser qu'il y a plus d'éléments d'ignorance que de connaissance sur la structure du monde contemporain.
Et cette question des indicateurs, elle est essentielle. Et puis, Laurent Ferrara, on peut même revenir à l'indicateur fondamental. À partir du moment où on comprend que, finalement, les cycles, cette notion de cycle dans l'économie, elle indique, finalement, cette autre idée de fluctuation, mais régulière, qui implique donc l'idée d'un écart par rapport à une norme, il faut aussi se mettre d'accord sur ce qu'est cette norme. Est-ce qu'on est capable de savoir ce qu'est cette phase qu'il ne faudrait pas quitter, ou en tout cas pas trop tôt, pas trop vite, et surtout comment la retrouver au plus vite après la crise? Est-ce qu'on sait quel est cet état normatif, on va dire, dans lequel on voudrait rester le plus longtemps possible?
Oui, alors là, vous faites peut-être la référence à un autre type de cycle que celui de cycle des affaires. Parce que le cycle des affaires sur lequel on a établi ce comité de datation pour la France, par exemple, on cherche à identifier le moment d'expansion en récession. Une expansion, c'est quand l'activité économique croît, et une récession, lorsque l'activité économique décroît. Donc là, on a une idée relativement claire. Mais il y a un autre cycle que les économistes aiment bien regarder, notamment les macroéconomistes, c'est le cycle d'écart à la tendance. En anglais, on parle de « output gap ». C'est un terme assez standard, même je crois que même en français maintenant on utilise ce terme-là. L'output gap, c'est quoi? C'est de dire, voilà, il y a une sorte de tendance, une croissance de long terme, d'accord? Et puis, il y a des écarts à cette tendance. Il y a des moments où on est au-dessus de cette tendance, on va plus vite, on croît plus vite que le taux de croissance tendancielle. Donc là, on est un peu en surchauffe, ok? Et puis, il y a des moments où on est en dessous, donc des moments où on est quelque part en sous-régime. Donc, il y a deux états qui apparaissent, selon cette définition, la surchauffe et le sous-régime, qui ne sont pas exactement expansion-récession, qui sont des choses différentes. Mais ce cycle-là, il est intéressant parce qu'il rentre dans beaucoup d'équations que les macroéconomistes utilisent, notamment les courbes de Phillips, par exemple, qui relient inflation et croissance. Dans cette, quand on veut estimer une courbe de Phillips, en général, on met l'output gap comme variable explicative. Lorsqu'on veut utiliser une règle de Taylor, qui est une réelle qui permet d'identifier si on doit monter ou baisser les taux d'intérêt de l'économie. La règle de Taylor intègre l'inflation et l'output gap. Donc cette mesure d'output gap surchauffe sous régime est intéressante aussi, mais elle est très difficile à utiliser. Pourquoi ? En pratique, on a des problèmes parce que on ne sait jamais à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, quelle est la valeur de la croissance tendancielle. C'est très difficile à mesurer. Il y a vraiment une divergence de vues. Il y a une énorme incertitude dans les mesures de cette croissance, notamment en temps réel. Ce qu'on sait, cette croissance, elle est en train de baisser depuis l'après-guerre. On a ce phénomène de stagnation séculaire, de baisse de la productivité, de baisse de la population active dans les pays avancés, là, je parle en particulier, qui fait qu'elle est en train de baisser. On était sur une croissance de 4 à peu près sur l'après-guerre. Aujourd'hui, en zone euro, autour de la France, on est autour de 1, voire un peu entre 0,5 et 1, selon les pays, et puis ça bouge sans arrêt. Donc, si vous voulez, ce cycle-là, il est hyper intéressant à considérer, mais très difficile à mesurer, parce qu'à l'instant T, c'est très difficile de donner une valeur de la tendance. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire, à l'instant T, si je suis en dessus ou en dessous de la tendance, vu que je n'ai pas de valeur exacte de la tendance. Donc, ce cycle de pull gap existe, il est hyper intéressant, il rentre dans de nombreuses équations, mais il est à manipuler avec beaucoup prudence et beaucoup d'incertitude. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en fait, on s'est plutôt intéressé dans le travail que vous avez évoqué initialement au cycle des affaires, le business cycle, comme on dit en anglais.
Voilà. Alors, on va revenir sur l'origine de ce cycle des affaires. Entre autres, Thierry Aymard, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, c'est à partir du 19e siècle qu'on s'intéresse à la façon dont on peut modéliser finalement cette idée de cycle, l'idée de maîtrise et de contrôle des facteurs est essentielle aussi pour savoir comment on arrive à parvenir à cette forme de modélisation. Or, Thierry Aymard, pendant très longtemps, dans un contexte où les sociétés étaient essentiellement tournées vers l'agriculture, personne ne cherche vraiment à tirer des leçons de l'enchaînement de périodes prospères puis de ralentissement économique, parce que tout simplement, et on en revient à cette idée du facteur exogène, tout simplement, on n'avait pas la maîtrise finalement des facteurs de production qui étaient concrètement la terre et puis la météo. Tous ces aléas-là font qu'avant le 19e siècle, on ne s'intéresse pas franchement à ce qui pourrait modéliser, on va dire, les différentes phases de l'économie.
Oui, pour rebondir un petit peu ce que disait Laurent, avant de répondre directement à votre question, c'est vrai que c'est la question de la définition du cycle, un écart par rapport à la tendance. Si on prend la théorie du cycle réel, aujourd'hui, c'est un changement de conception, en fait. C'est une théorie qui consiste à dire que finalement, c'est presque le trend de lui-même qui change. C'est-à-dire, on a des chocs de productivité qui sont aléatoires, non prévisibles. Et de ce point de vue-là, le cycle lui-même, c'est un déplacement du trend, même si le terme n'est pas forcément si adapté que ça. Ce sont des chocs qui affectent la structure même de l'économie et les agents se réadaptent, en fait, par rapport à ça. Et c'est plus des formes d'équilibre par rapport à ce... Donc, c'est très compliqué. Donc, comment redéfinir le cycle aujourd'hui? Et il y a beaucoup de débats et il n'y a pas de consensus là-dessus. Bon, pour revenir effectivement...
Thierry Aymard, il n'y a pas de consensus sur la façon de le redéfinir, mais la notion même de cycle en tant que tel, elle fait plutôt consensus scientifiquement.
C'est-à-dire que tout dépend ce qu'on entend comme cycle, parce que évidemment, on n'a jamais vu des périodes d'expansion qui sont infinies. On n'a jamais vu des périodes de dépression qui sont infinies. Donc, empiriquement, on a toujours constaté ce type de choses. Maintenant, la définition de ce que c'est une dépression, une récession, on peut s'entendre entre nous, encore une fois, et même s'il y a des débats sur ce type de choses, qu'est-ce que c'est qu'une amplitude, qu'est-ce que c'est qu'une durée, quand est-ce qu'on va avoir un renversement, etc. Là, ce sont un peu des débats techniques. Alors, pour revenir effectivement sur votre question.
Le 19e siècle, ce fameux passage, on va dire, de la société plutôt agricole à
voilà, ce qui se passe au 19e. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, bon, vous avez raison, c'est-à-dire, ça se passe au 19e siècle. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience véritablement, lorsqu'on passe dans une économie plus industrielle qu'agricole, on se focalise un petit peu sur la perception de crise qui serait liée plutôt à des facteurs donc du secteur industriel plus que du facteur agricole. Mais faut nuancer, parce que un auteur comme Jevons, par exemple, qui a fait des corrélations entre les taches solaires et l'évolution des prix et des productions agricoles, c'est effectivement quelque chose qui reste un petit peu présent, mais peut-être pas dominant. Mais progressivement, c'est vrai que ce sont évidemment des indicateurs de type industriel ou de type économie de marché plus axés sur la matérialité, on va dire ça, les prix, la production industrielle, qui sont un peu visités par des auteurs comme Juglar, etc., en relation avec des bases financières. Parce qu'on va commencer à relier les notions de l'économie réelle, l'investissement, avec la politique monétaire, les crises. Et donc, si j'élargis un petit peu le champ de la discussion sur la définition des critères exogènes et endogènes, peut-être que là, évidemment, c'est un champ de conflit entre les économistes, dans le sens où certains pensent que les facteurs de déséquilibre sont endogènes à l'économie de marché, donc les agents font des erreurs d'anticipation, c'est naturel, il y a des surinvestissements, des surexpansions, et à un moment donné, il y a des retournements. Bon, personne ne nie que l'économie de marché fluctue. Maintenant, c'est l'ampleur de ces fluctuations qui peuvent être effectivement discutées. Et si on considère une opposition entre cette vision endogène et exogène, d'autres économistes liés au cycle des affaires vont dire, ben non, l'économie de marché, c'est quand même fondamentalement équilibrant, même s'il y aura toujours, évidemment, des changements d'activité suite à la dynamique inhérente, évidemment, des activités, mais exogène, c'est la politique économique, c'est la politique monétaire. Et éventuellement, alors ça c'est contrôlable, d'accord, on peut changer si on comprend les erreurs et donc limiter évidemment l'ampleur des fluctuations. Et puis il y a peut-être des facteurs encore plus exogènes et là non contrôlables, les facteurs démographiques, les facteurs de l'innovation, même si l'innovation, il y a des théories de la croissance endogène, etc. Bon, il y a plein de choses, mais en tout cas, ce sont des facteurs qui, effectivement, ne sont pas aussi contrôlables qu'une politique monétaire, qu'une politique industrielle, qu'une politique même environnementale. Mais voilà, donc là aussi, l'opposition peut-être s'opère sur ce terrain, et c'est vrai que c'est à partir du deuxième siècle qu'on met, évidemment, les variables industrielles, financières au cœur du débat.
Parce qu'on en a le contrôle et parce qu'on sait dans quel à peu près moduler aussi en fonction des attentes et de la situation économique. Laurent Ferrat, vous souhaitiez réagir.
Oui, si je reprends votre question, en fait, ce qui est vrai, c'est que la définition des cycles dépend beaucoup de la structure sectorielle du pays. Ça, c'est important à garder en tête. Et notamment, c'est pour ça qu'on a une définition qui est assez commune pour l'ensemble des pays avancés, d'un côté, donc États-Unis, enfin les pays du G7, on va dire, et les pays émergents de l'autre côté. Par exemple, si on prend la Chine n'a pas connu de récession récente, sur la période récente, mais lorsque l'économie chinoise passe d'une croissance de 10% dans les années 2000 à 5% après, sur les années 2010, ben, c'est quand même un choc énorme. Donc c'est un choc qui est comparable à un effet récessionnaire pour les économies européennes et avancées, mais elle n'a pas connu de récession au sens où on le définit, nous, pour la France, pour les États-Unis. Donc, et pour les pays à faible revenu, c'est la même chose. Ces pays-là sont soumis à des crises financières, des crises de change, des crises bancaires, qui sont des facteurs extrêmement différents des facteurs à la source des récessions dans les pays avancé. Donc, la structure du pays joue énormément sur la façon dont on définit le cycle.
Et potentiellement, quel modèle on choisit, Thierry Aymard ?
Et pour compléter ceci, il faut bien comprendre que la théorie du cycle s'est faite à une certaine période, 19e siècle, 20e, et donc à des stades où la mondialisation n'avait pas atteint, évidemment, une dimension telle qu'elle apparaît aujourd'hui. Et évidemment, on comprend que les interrelations entre ces différents blocs vont nécessairement modifier les logiques de cycle. Et ce qui se passe en Chine, on peut présumer, évidemment, que ça a des impacts, il y a déjà des impacts sur l'économie occidentale, mais évidemment, on a l'intuition qu'il va falloir apprendre à incorporer ces notions d'interrelation entre de multiples variables économiques, financières, voire environnementales aujourd'hui, pour élargir peut-être aussi la capacité de définir un cycle, d'affiner éventuellement sa durée, peut-être sa prévision, et puis gérer, évidemment, ex post, ça va modifier, bien sûr, la nature des indicateurs. Donc, là aussi, la théorie du cycle peut être conçue aujourd'hui plus comme une plateforme de réflexion une souche de créativité intellectuelle qui nous donne l'occasion de revisiter un petit peu nos indicateurs traditionnels.
Alors, on va revenir sur la genèse, finalement, de ces différents modèles qu'on vient d'évoquer, comment on passe, finalement, d'une analyse analyse des crises, parce qu'on mentionnait le 19e siècle, de fait, certes, la production est plus contrôlée, on a davantage la main sur les différents leviers à actionner en fonction de l'état de l'économie, plus ou moins, mais en tout cas plus que lorsqu'il s'agit de climat, on va dire. Évidemment, il y a encore des guerres et leurs conséquences. On va de fait s'intéresser à comment rebondir et puis on va aussi s'intéresser à comment anticiper. On en parle juste après. Un titre des Clash que l'on retrouve notamment dans leur album Capital Crisis, un enregistrement de leur tournée dans le New Jersey en 1980. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Entendez-vous, l'écho retrace aujourd'hui l'histoire et les fluctuations même de la notion de cycle grâce à nos deux invités, les économistes Laurent Ferrara et Thierry Aymar. Alors on a évoqué ce contexte nouveau de l'industrialisation des sociétés, que la question des cycles fait l'objet d'une première théorisation. Un penseur est considéré comme pionnier en la matière, on l'a mentionné ici et là au cours de cette discussion, c'est le statisticien français Clément Juglard, dont l'ouvrage « Des crises commerciales et de leur retour périodique en France, en Angleterre et aux États-Unis », paru en 1862, se penche sur la question.
Étudier et rechercher la nature et l'origine des causes de tout ce qui nous entoure et nous touche le plus directement présente toujours les plus grandes difficultés. Parce que solidaires, liés comme nous le sommes à tant d'accidents, dépendants ou indépendants de notre volonté, nous subissons les influences les plus contraires et les plus variées. Et quand nous essayons de préciser les causes déterminantes, une foule de causes occasionnelles nous assiège, trouble la vue et nous donne le change, nous faisant souvent prendre l'accident pour le principe même du mal. Les symptômes qui précèdent les crises sont les signes d'une grande prospérité. Nous signalerons les entreprises et les spéculations de tout genre. La hausse des prix de tous les produits, des terres, des maisons, la demande des ouvriers, la hausse des salaires, la baisse de l'intérêt, la crédulité du public, qui, à la vue d'un premier succès, ne met plus rien en doute. Le goût du jeu en présence d'une hausse continue s'empare des imaginations, avec le désir de devenir riche en peu de temps, comme dans une loterie. Un luxe croissant entraîne des dépenses excessives, basées non sur les revenus, mais sur l'estimation nominale du capital d'après les cours cotés. Les crises ne paraissent que chez les peuples dont le commerce est très développé. Là où il n'y a pas de division du travail, pas de commerce extérieur, le commerce intérieur est plus sûr. Plus le crédit est petit, moins on doit les redouter.
À Thierry Aymar, on a une forme de rupture dans l'histoire de la pensée économique. Clément Juglard va s'attaquer d'un point de vue très scientifique aussi à ce qui fait un cycle. Il s'intéresse certes aux causes des crises, mais il va apporter un regard nouveau, on va dire, sur ces causes-là. Il donne notamment une très grande place au crédit, notamment, ce que d'autres ont fait un peu avant et surtout ensuite. En quoi est-ce révolutionnaire d'un point de vue scientifique, Thierry Aymar ?
C'est révolutionnaire à plusieurs titres. D'abord, c'est un des premiers statisticiens. Hein. C'est le premier à avoir recueilli des données, à essayer de faire, avec évidemment les moyens de l'époque, un travail de corrélation, de mise en perspective des différentes données pour essayer de voir si on peut mettre en évidence en fait des relations avec l'ambition de mettre en évidence des relations de causalité à partir de corrélations. Il est pionnier déjà au niveau des méthodes, on va dire ça. Il est effectivement pionnier parce que c'est un des premiers à analyser la périodicité des phases sous l'angle de l'économie industrielle, tout en la reliant évidemment à la question financière. Je dirais il y a plein d'éléments qui sont extrêmement novateurs de ce point de vue-là. L'investissement, c'est quelque chose de très important chez Juglar. C'est une variable de l'économie réelle. Et c'est vrai que cette variable, on va la voir développée, réutilisée tout au long du XXe siècle sous des formes diverses et variées. Et donc, il anticipe beaucoup de choses qui vont être présentes dans le cycle des affaires. Pour tous les auteurs, hein, personne n'exclut la question de l'investissement dans le déclenchement des crises, dans la mesure, évidemment, des phases d'expansion ou de dépression. L'originalité donc supplémentaire, c'est la mise en relation de cette variable réelle à des variables monétaires. Le premier ou parmi les premiers à avoir mis en évidence l'influence des facteurs monétaires sur le déclenchement des crises économiques, même si évidemment d'autres auteurs avant lui, Ricardo, étaient préoccupés par ce type de choses, mais pas dans une logique cyclique.
Non, d'accord, il analysait voilà, ce qui venait
exactement,
de se passer.
Exactement. Et donc, voilà. Donc, alors, c'est assez intéressant, Juglar aussi, dans la mesure où il intègre des éléments, on l'entendait bien dans ce qu'on vient d'écouter, des éléments psychologiques. Et ça annonce des auteurs qui sont pas forcément ceux à qui on pense quand on pense à la relation entre monnaie et investissement. Quand on pense monnaie et investissement, on pense à Hayek, notamment. Mais quand on introduit la psychologie, on se relie plutôt à Keynes, qui lui aussi, évidemment, vient siècle, a essayé de creuser cette question en relation aussi au marché financier. Là aussi, Juglar, on peut considérer que c'est un vrai socle qui a inspiré énormément d'auteurs. Et il n'y a pas grand monde ensuite qui a dit que Juglar s'était véritablement trompé. On l'a utilisé, on l'a réutilisé, on l'a contextualisé. Mais Juglar, c'est vrai que c'est une référence qui est assez intéressante et qui va évidemment inspirer énormément de gens au XXe siècle, puisque au XXe siècle, on va quand même essayer de construire, on parlait du NBER, son premier fondateur, c'est Mitchell, et donc c'est le premier à avoir construit une théorie du cycle formalisée en 1913, etc.
Laurent Fevera, quelle place occupe aujourd'hui justement l'analyse de Juglar, et notamment au sein du comité de datation des cycles que vous dirigez?
Ce qui me frappe là, dans le petit extrait qu'on vient d'écouter, c'est la très grande modernité en fait. Parce que je me refaisais l'histoire récente, mais ce qui est très frappant, c'est cette idée d'introduire donc la dette, le crédit comme moteur quelque part, hein, associé à la psychologie, donc des phases d'optimisme, de suroptimisme, où on investit beaucoup, plus que nécessaire. Ça me rappelle notamment la crise Internet, la crise de 2000, alors qu'il nous a pas en France, c'est pas considéré comme une récession, mais aux États-Unis, c'est une récession, la crise d'Internet. Donc, c'est le moment où j'ai commencé ma carrière d'économiste et je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, moi, je commençais à travailler sur les cycles et on a commencé à parler de la fin des cycles. On pensait que cet optimisme allait finir les cycles, en fait, qu'on allait croître de manière continue, positive pendant plusieurs années. Et bing! Récession. Donc, ça veut dire que les cycles sont toujours là. Mais ce qui est très frappant, c'est cette modernité. Et puis, ça marche extrêmement bien aussi. Si on reprend aussi la crise de 2008-2009, c'est exactement ça. C'est une crise, un surendettement des ménages pour acheter des biens immobiliers, des ménages non solvables. Lorsque les taux d'intérêt sont remontés, ils n'ont plus pu rembourser. Donc, un excès d'optimisme, la psychologie et le mélange endettement, psychologie et investissement, c'est un peu le triangle de cette vision un peu endogène des récessions. Et d'ailleurs, l'investissement, si je reviens sur l'investissement, c'est une des variables que l'on considère dans le comité de datation des cycles de l'économie française, extrêmement importante. Et ça marche très bien. Chaque fois que l'investissement baisse, ça coïncide quasiment avec une récession de l'économie française. Donc, on a un suivi très précis de l'investissement. Et juste, sans peut-être spoiler la fin, mais en ce moment, l'investissement en France est en train de chuter. Et on a une baisse de 3% à peu près sur un an. Donc, c'est une variable à regarder avec la plus grande attention.
On va voir, Laurent Ferrara, s'il nous est possible d'analyser le moment présent. Vous nous l'avez déjà dit, c'est un exercice très compliqué et complexe. Thierry Aymard, vous souhaitiez...
On pourrait interpréter aussi Juglar comme une sorte de sas entre les facteurs endogènes, qui met en évidence, et les facteurs exogènes. Parce que finalement, tous ces comportements sont accompagnés par la politique monétaire en elle-même, voire encouragée. Et donc, c'est vrai que si on conçoit évidemment une politique monétaire comme un moyen peut-être de contrer ces éléments endogènes, ça peut évidemment faire une sorte, de confluence entre l'exogène et l'endogène. Et donc, ça renforce évidemment l'audience de la théorie du cycle.
Et puis, vous l'avez dit, cette politique monétaire, justement, est un moyen, un outil. C'est donc qu'on conçoit des politiques publiques dites contracycliques ou qui, soit cherchent à amplifier le mouvement s'il est positif ou à tenter de le juguler si les choses vont moins bien. Et tout cela, ça ne vient pas de nulle part, encore une fois, Thierry Aymard. Les choses, elles s'organisent, elles s'institutionnalisent tout au long du XXe siècle. Alors, on l'a déjà cité, le National Bureau of Economic Research, qui est fondé en 1920 aux États-Unis avec par Wesley Clair Mitchell. En 1917, l'économiste Persons est chargé par le Harvard Committee for Economic Research d'entreprendre une étude des méthodes de collecte et d'interprétation des statistiques économiques et met au point un baromètre. Tout ça, ce sont des nouveaux outils, là encore soutenus quelque part par la puissance publique. Thierry Aymard, c'est un tournant, quelque part, alors non plus scientifique, mais institutionnel. De quoi ça témoigne ?
On pourrait ajouter le nom de Kuznets aussi, sur la même période, évidemment, qui est un grand auteur, qui est un Nobel d'économie, qui a beaucoup contribué aussi à travers ce qu'on appelle un cycle intermédiaire, là aussi, avec des variables qui sont exogènes, démographiques notamment. Oui, c'est une période de bouillonnement intellectuel. Alors évidemment, on sort de la Première Guerre mondiale, on a quand même évidemment des éléments techniques un peu plus élaborés qu'au 19e siècle. Et cette réflexion, bien évidemment, autour de la datation du cycle, de la capacité de compréhension du cycle, elle va bien sûr être exacerbée à partir de 1929. Et donc, c'est à ce moment-là, évidemment, que on va se voir se développer énormément de théories qui vont essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Et évidemment avec l'ambition non seulement de sortir de la crise, mais de faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus. Et là, on voit une flopée d'auteurs qui émergent, évidemment, notamment Schumpeter, qui va évidemment, de ce point de vue-là, apporter sa propre contribution. Et donc, on voit un éventail à la fois d'indicateurs et de théories différentes, donc un fort enrichissement. Avec évidemment des avancées techniques extraordinaires, c'est l'économétrie qui apparaît, et en même temps, j'irais des divergences d'opinion qui sont extrêmement fortes et qui sont congruentes à cette convergence, ou en tout cas cette augmentation de tous les éléments techniques qui peuvent évidemment nourrir et renforcer une théorie du cycle.
Vous l'avez dit, on aurait pu citer beaucoup d'autres économistes qui ont contribué aussi à ce bouillonnement intellectuel. C'est d'ailleurs dans ce contexte des années 20 qu'apparaît la figure peut-être la plus connue de toutes et tous de l'analyse des cycles, celle de Nikolaï Dimitrievitch Kondratiev, qui dirige l'Institut de Moscou qu'il fonde en 1920. Là, Laurent Ferrara, en petite parenthèse théorique peut-être, pour celles et ceux qui connaissent Kondratiev, on a parlé de cycles courts, de cycles longs. Kondratiev, c'est peut-être le penseur du cycle long par excellence. On parlait un petit peu plus tôt de Juglar qui, lui, met au point des cycles de 8-10 ans, ce qui c'est déjà considéré comme un cycle long, mais lui, Kondratiev, il va penser sur un encore plus long terme.
Oui, oui, Juglar, c'est un peu ce qui correspond au cycle des affaires. Et par contre, effectivement, le cycle long qui a été introduit par Kondratiev, c'est une vue beaucoup plus long terme et extrêmement liée au choc technologique. En fait, hein. Donc c'est les histoires de la destruction créatrice schumpeterienne, donc lié à chaque fois que l'on peut avoir un choc technologique, une innovation, ça va générer une période de croissance qui va pas durer indéfiniment, et puis à un moment donné, les entreprises bénéficient au début de ce choc technologique en termes de productivité, donc ça croît, puis la compétitivité augmente entre les entreprises, et puis à la fin, il y a plus d'évidence, on commence à stagner, donc on a besoin d'un nouveau choc technologique. Donc dans l'attente du nouveau choc technologique, là on a une phase de baisse de l'activité économique. Voilà.
Alors, Laurent Ferrat, vous avez mentionné la figure de Schumpeter qui, effectivement, participe de cette relecture de Kondratiev. Il faut le dire, Kondratiev ne connaît pas un destin très heureux. Il est envoyé au Goulag en 1930. La plupart de ces instituts qu'on évoquait à l'instant connaissent une forme de déclin aussi. Mais Schumpeter va donc relire Kondratiev, et notamment dans son ouvrage Business Cycles en 1939. Là, Laurent Ferrat, il faut peut-être nous expliquer en quoi Schumpeter renouvelle finalement ce que Kondratiev avait commencé à élaborer, et en quoi cette idée d'une innovation par grappe va aussi permettre de repenser une forme de cycle.
Oui, c'est cette idée schumpeterienne. Donc, on repart jamais de zéro. On construit sur le passé, on détruit, et puis on repart sur une nouvelle innovation technologique. Donc, c'est une approche vraiment purement macro. Et là, je pense que ça, c'est dans la vue que j'ai, dans en termes de décomposition, si on revient entre tendance et cycle, ça, c'est plus ou moins un facteur de la tendance de long terme. C'est ce qui va jouer, en particulier, sur la productivité. Les trois facteurs de la croissance de long terme, c'est le capital, le travail et la productivité. D'accord? Donc, le travail, c'est la main-d'œuvre, les gens que l'on a disponibles. Donc, une population jeune est censée croître plus vite, avoir un potentiel plus fort. Le capital, c'est ce qu'on a investi. Donc, si on a investi beaucoup, on va avoir du capital disponible, etc. Et l'élément important, et aujourd'hui c'est un des problèmes majeurs auxquels on est confronté, c'est la productivité. C'est-à-dire, ça fait un moment qu'on attend le choc de productivité. Depuis, quelque part, l'électricité, la vapeur, la révolution industrielle, on a été extrêmement déçus du choc des technologies de l'information et de la communication. On s'attendait à un choc technologique majeur, exactement. On pensait que ça allait booster la productivité. Et puis, en fait, on s'est aperçu que finalement, quand on regardait nos mesures de productivité, donc elles valent ce qu'elles valent, elles ne sont pas toujours optimales. Mais bon, en fait, on en a plusieurs sur différents pays. Donc, on a quand même une sorte de consensus ce qui émerge, on ne voit pas l'effet de ce choc technologique. Et donc, on attend le prochain, quelque part, on attend le prochain, et on espère beaucoup sur l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, le big data, qui pourraient être à la source du prochain choc technologique. Mais pour moi, si on parle des cycles aujourd'hui, ça c'est plus un driver de la croissance de long terme, quelque part. Donc, si jamais on parle du cycle d'écart à la tendance, qu'on en a évoqué au début, là, à ce moment-là, c'est quelque chose d'intéressant. Si on s'intéresse au cycle des affaires, je dirais, c'est un peu moins Crayant, relié. Oui. C'est plus difficile à relier. On sait qu'il y a un effet, mais c'est un peu plus difficile à relier. Sauf que ce qu'on peut avoir en tête, c'est un phénomène dont on n'a pas encore parlé, c'est les effets d'hystérèse. Les effets d'hystérèse, c'est quoi? C'est-à-dire que le cycle, on a tendance à décomposer tendance et cycle. Mais en fait, les deux composantes ne sont pas indépendantes, en fait. Lorsqu'on a un cycle très fort, une récession assez marquée, eh bien, ça va impacter à son tour la croissance de long terme via une baisse de la population active, via une baisse de l'investissement, etc. Donc, les deux sont un peu à relier, et donc il faut essayer de les intégrer. Tout à l'heure, on parlait de nouveaux indicateurs, et c'est vrai que dans un contexte aujourd'hui de baisse de productivité, de baisse de la croissance de long terme, c'est vrai qu'il faudrait peut-être songer à regarder des indicateurs alternatifs pour tenir compte de ce phénomène dans nos mesures de cycle de court terme.
Et oui, pour revenir sur ce thème de l'ignorance, la productivité, c'est une surprise pour nous économistes ce qui se passe, puisque la productivité baisse alors qu'on a une flopée d'innovations, on a une flopée de nouveaux instruments numériques, virtuels, et la productivité du travail est en baisse. On ne comprend pas ça. Et comment interpréter aussi de manière théorique ce qui se passe? Ce mystère, c'est quelque part aussi le signe d'un échec, entre guillemets, puisque normalement, ces indicateurs ont relié à d'autres indicateurs, on pourrait les prédire. Et donc, quand on construit évidemment ces batteries de mesures statistiques, l'idée, c'est qu'en connaissant une variable, on peut prédire l'évolution de notre variable. Et on s'aperçoit qu'on est tout le temps, en permanence, confronté à des surprises. Le nombre de surprises est considérable aujourd'hui. Et donc, évidemment, ça nous pose un problème presque déontologique, parce que notre travail, c'est quand même d'éviter la surprise, mais la surprise, elle est continue. Et de ce point de vue-là, c'est assez troublant pour nous, économistes, ce qui est en train de se passer, parce qu'on a du mal à avoir une lecture. Pour revenir, effectivement, sur l'entre-deux-guerres, peut-être qu'on pourrait parler deux secondes, comme quelque chose de fondamental au niveau de la théorie du cycle, c'est la controverse entre Hayek d'un côté et Keynes de l'autre côté.
J'allais exactement vous lancer sur ce point crucial.
J'ai un peu anticipé.
Non, je vous en prie, non, mais c'est très bien parce que Thierry Marx, c'est vrai qu'on s'est quitté sur ce tout début des années 30.
Oui.
On se dit, bon voilà, vous parliez de surprise à l'instant, alors certes, nous, ça a l'air d'être, on va dire, actuellement une surprise qui s'étale, on va dire. La crise de 29 vient prendre par surprise de façon beaucoup plus brutale, on va dire. Comment on explique que tous les travaux qui ont été faits précédemment n'aient pas su anticiper cette crise-là? Est-ce que c'était des modèles qui étaient trop fondés peut-être sur le mode de fonctionnement d'une économie du 19e siècle qui n'aurait pas su voir ce qui s'est passé? Et puis surtout, qu'est-ce qui a donné lieu ensuite à ces controverses? Comment cette pensée-là s'est renouvelée dans le sillage de cette crise de 29?
C'est vrai que cette période des années 20 a été, au niveau financier en tout cas, perçue par beaucoup comme une période très faste, avec une croissance infinie. De l'autre côté, on va toujours trouver des gens qui ont écrit et qui ont pris conscience assez tôt des menaces, effectivement. Ensuite, évidemment, la crise s'est déclenchée. Alors, cette crise a été plus ou moins annoncée par certains auteurs. Donc, on a dénoncé des erreurs de politique économique, budgétaire, monétaire. Et évidemment, donc, ce déclenchement de la crise a donné lieu à énormément d'interprétations. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on voit émerger deux auteurs qui vont s'affronter très directement, avec des positions totalement différentes en matière de cycle des affaires. C'est bien sûr Keynes qui voit plutôt les choses qui sont d'ordre psychologique et liées à la nature même du système économique, mais aussi à certaines erreurs de politique économique conjoncturelle qui auraient été menées dans les années 20 et qui, selon Keynes, auraient abouti à cette crise. Et puis, d'une autre manière, sans exclure d'ailleurs la notion de psychologie, parce qu'on peut retrouver évidemment des éléments de psychologie dans l'œuvre de Hayek, qui s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est cognitif. Hayek a une vision parallèle, mais totalement antinomique à celle de Keynes. C'est-à-dire, ce que Keynes voit comme des erreurs, Hayek va plutôt voir ça comme des solutions, et donc l'affrontement sera brutal et donnera lieu évidemment à deux interprétations différentes de la logique du système économique, de la manière dont il faut gérer l'après-crise, et de la manière dont il faut soutenir une croissance.
Et ce que vous dites, c'est que, de fait, les politiques qui ont été menées, les politiques de New Deal, de relance, elles convenaient plutôt, elles confirmaient plutôt ce que nous disait Keynes, c'est que, de fait, Hayek est tombé dans un relatif oubli. En tout cas, il n'a pas eu le vent en poupe, au moins jusqu'au milieu des années 70, et il y a eu un relatif oubli, on va dire.
Une véritable traversée du désert. Et encore une fois, c'est assez intéressant, parce que les débats sur ce qui a nourri la croissance d'après-guerre, les indicateurs qui peuvent évidemment être mis en évidence, le pourquoi de l'évolution de ces indicateurs, vous avez encore des controverses, évidemment, qui se développe durant toute la période et qui vont aboutir ensuite à un retournement, je dirais, du rapport de Ford dans les 70, puisque c'est plutôt des théories d'explication des difficultés via la monnaie, via des mauvaises politiques d'expansion monétaire qui sont effectivement de nouveau visitées dans les années 70 à travers Hayek, mais aussi Friedman, Lucas, etc., d'autres auteurs qui vont en quelque sorte prendre le relais des explications, des fluctuations à partir de ces années-là.
En ce qui concerne la situation de notre économie, je dirais ceci. Premièrement, depuis la fin de 1978, la France a absorbé les conséquences du premier choc pétrolier, c'est-à-dire le choc pétrolier de 73-74. Deuxièmement, la France est à l'heure actuelle en train d'absorber mieux que nous le pensions le deuxième choc pétrolier, c'est-à-dire le choc du mois de juillet dernier, et cela pour deux raisons essentielles. La stabilité de sa monnaie, la productivité de ses entreprises. Troisièmement, la France est aujourd'hui mieux armée pour faire face aux chocs futurs, car je ne me dissimule pas que nous allons au-devant de chocs futurs. Et la politique que nous devons mener est une politique de vigilance, je dirais une politique tous azimuts par rapport aux éventualités qui peuvent brusquement surgir. Ce n'est pas facile, mais l'outil, c'est-à-dire la capacité de l'économie française, est à l'heure actuelle une capacité à laquelle nous pouvons faire confiance.
Voilà, c'était Raymond Barre. On parlait de ces fameuses années 70 où beaucoup de choses s'effondrent et en tout cas beaucoup de choses relèvent du choc inattendu et qui remettent en cause un certain nombre de théories. Donc Raymond Barre le 22 novembre 1979 devant l'Assemblée nationale. Là, Laurent Ferrara, on a quand même un élément essentiel, encore une fois, celui de finalement la confiance. Est-ce que, et alors là c'est une question tout à fait ouverte, est-ce que le comité de datation des cycles qui est créé en 2020 sert aussi à ça? Il sert aussi à dire, en fait, on a une vision de ce qui va se passer plus tard, on a les outils pour le faire, ayez confiance. Il y a une forme aussi de s'appuyer sur la théorie pour envoyer un message.
Alors, nous, on dit ayez confiance dans le passé, déjà. Donc, on fournit une datation historique qui permet de caler les modèles. Et ça, c'est extrêmement important, d'accord ? Le calage des modèles, l'estimation des modèles, que ce soit macroéconomique, économétrique, a besoin de données passées. Et donc là, avec notre datation, on fournit un calage sur lesquels les chercheurs peuvent s'appuyer pour essayer d'anticiper le futur. Donc, à ce sens-là, on fournit un produit, un bien commun, que les chercheurs peuvent s'approprier pour leurs propres travaux et, en utilisant le passé, essayer de prévoir l'avenir malgré toutes les incertitudes que l'on connaît aujourd'hui, que l'on a déjà évoquées, que Raymond Barre évoquait déjà à l'époque. Mais ceci dit, le deuxième choc pétrolier, il est un peu trop optimiste. Il a bien donné lieu à une récession à ce moment-là. Mais ce qui est à remarquer, c'est que le choc que l'on a connu récemment, le choc énergétique qu'on a connu récemment avec la sortie de Covid et la crise en Ukraine, ne s'est pas encore, je dirais, transformé en récession. Donc, je ne sais pas si on va avoir une récession d'année à venir, mais au moins, on ne l'a pas eu encore. Voilà.
Et ce qui est peut-être le signe qu'on sait mobiliser les bons outils. En tout cas, un grand merci à tous les deux, Laurent Ferrara et Thierry Aymard, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.